Et donc, on poursuit cet après-midi sur le sujet des discriminations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Isabelle Quentin et Camille Regnault. Alors tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors, Isabelle Quentin et Camille Regnault, vous êtes comédienne professionnelle et metteuse en scène de la compagnie d'Odeca. Alors, la compagnie d'Odeca a été fondée en 1998 et a posé ses valises en 2006 à Coutances, suite à l'appel d'un projet départemental de la Manche, de la ville de Coutances, de son théâtre et de l'archipel à Granville. La compagnie d'Odeca présente de nombreux spectacles. Isabelle Quentin et Camille Regnault, vous avez construit Corpus Féminin, un spectacle qui vise à représenter des corps féminins avec l'envie de déconstruire les mythes sur le corps de la sexualité des femmes. Alors, comment vous est venue l'idée de réaliser ce spectacle ?
Vaste question.
C'est sûrement la conjonction de pas mal de choses. On a un premier spectacle qu'on avait créé ensemble qui s'appelait Simone en Veil, qui était une commande de chauffer dans la noirceur pour les 40 ans de la loi Veil. On l'a tourné un peu.
C'était en 2015.
Voilà.
Et à l'issue de ce spectacle, on l'a tourné pendant bien 5 ans. Et donc à peu près en 2019-2020, on s'est regardé, Camille et moi, et on s'est dit, mais on sent que, la durée d'un projet, c'est à peu près, ça pourrait durer 10 ans, mais 5 ans, c'était déjà pas mal. On sentait qu'on arrivait sur la fin et on avait envie de continuer une aventure, d'en écrire une nouvelle finalement. Donc Simone en Veil, c'était effectivement sur, on célébrait l'anniversaire de la loi Veil. Et Corpus Féminin, c'est, donc on touche, on parle, on traite du corps des femmes en particulier. Mais en fait, du coup, forcément, ça induit de parler du corps des gens en général. Et c'est une question qui a déjà été un peu abordée, mais tout petit peu dans Simone en Veil. Et donc, on voulait explorer totalement la question, finalement. Simone en Veil, le sujet, c'était la loi Veil. Et donc, on avait envie, au lieu des 5-10 minutes abordées dans le premier projet, y mettre une heure d'étude dessus. Il faut savoir qu'il y a peut-être presque 800 heures d'études derrière, mais... Au final, il y en a une sur la présentation du spectacle.
Selon vous, comment le théâtre peut-il être un outil efficace pour exprimer et dénoncer les comportements oppressifs envers les femmes ?
C'est un art de la représentation. Donc, on est déjà deux corps de femmes sur scène. Et c'est de là qu'on est parti, de notre histoire à nous, de notre propre rapport au corps. Et en fait, après, on avait envie d'ouvrir. Donc, ça nous a amené à interroger d'autres gens sur cette thématique-là, sur cette question du rapport au corps. Et puis, le format qu'on propose, c'est un format théâtral, mais qui a la particularité d'être en prise directe avec le public.
Il y a de l'interaction.
Donc... Et il y a des échanges avec les scolaires avant la représentation et avec le tout public à l'issue de la représentation. Donc en fait, c'est comment on ouvre des espaces de discussion par le spectacle, qui est notre média, qui est la façon qu'on a, nous, de nous adresser au monde et d'aborder les questions qui nous intéressent. Donc, mais ça, c'est vraiment ça, quoi. Comment on crée la discussion. C'est comme ça, je pense, qu'on agit.
Et oui, comme vous le disiez tout de suite, avant même que le spectacle commence, vous demandez au public d'afficher sur un panneau le nom d'une femme inspirante. Alors moi, ma curiosité voudrait vous demander quels sont les noms qui ressortent fréquemment, mais surtout pourquoi vouloir faire participer le spectateur avant même que l'expérience commence.
En fait, on a écrit le spectacle à partir de participation d'un public déjà, puisque on a été à la rencontre de témoignages, de personnes pour on a recueilli énormément de témoignages. On est allé dans des collèges à Tours-la-Ville, à Perrier. On est allé dans des foyers de jeunes travailleurs à Granville, à Coutances, au centre d'animation de Granville et de Coutances également. On a voyagé sur le territoire de la Manche pour rencontrer des personnes. Et on les a interviewées pour en écrire, pour recueillir la sève de leurs témoignages et en écrire un spectacle d'une heure. Et donc, c'est déjà du témoignage, le texte. Nous ne sommes que les passeurs de paroles, et passeuses, en l'occurrence. Et donc, on avait envie que le public, même si certains viennent voir le résultat de leur témoignage, finalement, mais pas tous, bien sûr. Donc, on avait envie aussi qu'ils participent d'une certaine façon à mettre une petite pierre à l'édifice de ce spectacle, en disant qu'eux aussi, ils ont un rapport à... Bah là, en l'occurrence, la question, c'est est-ce qu'ils ont une... Est-ce qu'ils peuvent nommer une femme qui serait une femme inspirante, une femme de référence? Alors, on espère qu'il y en a des centaines et on leur demande d'en choisir une à ce moment-là. Donc, qui?
Oui, oui, c'est juste pour ajouter que c'est une des façons de faire participer le public et que le fait de leur demander de l'écrire, c'est aussi une manière un peu détournée de vraiment les amener à se poser la question. Parce que si juste on la pose comme ça, après, voilà, on peut ne pas forcément chercher trop loin pour y répondre. Et donc là, le fait qu'on demande, qu'on l'écrive, puis ça crée une diversité de réponses qui est assez chouette, qu'on réutilise à un moment du spectacle. Donc ça donne un panel qu'on n'aurait jamais eu, Isabelle et moi, si on s'était juste posé la question, nous deux. On en a évidemment plein, mais là, ça ouvre sur des femmes auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. Ceci dit, pour répondre au début de ta question, une des femmes qui revient vraiment le plus, c'est Simone Veil.
Oui, oui, c'est ça.
Et donc, on le disait juste avant, vous organisez des activités avant le spectacle avec le public, mais vous organisez aussi des activités après le spectacle. Alors, comment le public réagit et pourquoi avoir tenu à ce temps supplémentaire?
Alors, c'est un spectacle qu'on a réfléchi beaucoup pour pouvoir le jouer en établissement scolaire. D'une part parce qu'on trouvait important de sensibiliser la jeunesse à ces questions-là. Il se trouve qu'on s'est rendu compte que la jeunesse, enfin les collèges en l'occurrence, se posaient beaucoup de questions, mais que les réponses étaient souvent vides. Enfin, donc ils étaient en attente de beaucoup de choses. Donc on l'a pensé aussi et beaucoup pour les établissements scolaires. Et dans ce cas-là, eh bien, on s'est dit, on ne peut pas venir que jouer un spectacle. Il faut faire de la rencontre. Donc, effectivement, on a des ateliers avant, après, des rencontres, des échanges. Mais tout ça, c'est pour ne pas laisser le public seul avec certaines questions. On aborde des sujets, la question du genre. On essaye d'en donner une définition, en sachant qu'en fait, la définition, elle bouge sans arrêt, surtout en ce moment. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette définition-là, donc ça fait débat et nous on essaye de poser le débat en fait. C'est ça, les échanges qu'on fait, c'est pour pas que les gens rentrent tout seuls à la maison en se demandant où ils en sont eux avec ces questions-là, qu'on essaye de les aborder pour les universaliser.
Et puis, en ce qui concerne les collégiens, on perce quand même certains abcès. Enfin, on y va assez franco sur certaines parties du spectacle. Et du coup, c'était aussi c'est inhabituel pour eux de la part des adultes de s'adresser aussi franchement à eux. Donc, on avait envie que le public soit un peu... que les élèves soient un peu prêts à recevoir ce format-là pour pas justement être trop dans la surprise de la manière dont on aborde les thématiques, pour pouvoir vraiment les recevoir pleinement, en fait, au moment du spectacle. Et puis, parce que, encore une fois, ça les amène, eux, à se poser des questions sur eux-mêmes, sur leur rapport au corps. Et en fait, ils rentrent un peu dans le processus qu'on a exploré pendant la création. Et donc, ça leur crée, je crois, une forme d'empathie aussi avec les personnages qui étaient des personnes qu'on a rencontrées, quoi.
Et vous parliez d'empathie, justement, comment vous gérez les émotions du public et les discussions qui peuvent surgir lors des échanges post-représentation?
C'est pas toujours simple, effectivement. Il y en a des émotions. Il y a aussi des colères, des fois. Elles ne sont pas retournées contre nous, elles sont plutôt retournées contre le constat, l'état de fait. Ouais. Comment on fait? Nous, on essaye un maximum quand on sait qu'on va faire ce qu'on appelle un bord-plateau, c'est-à-dire un échange après le spectacle. On demande toujours à ce qu'il y ait un médiateur avec les connaissances du sujet. Donc, quand c'est des collèges, c'est souvent soit une personne qui fait partie d'une association qui serait dans les parages, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, et il suffit juste de faire appel à eux parce qu'ils se rendent disponibles, soit tout simplement la personne, l'infirmière ou l'infirmier de l'établissement. Et sinon, on est en lien très fort avec le comité droits des femmes et régulièrement, on fait appel à elles, parce que c'est beaucoup des femmes, mais il y a quelques hommes. On fait appel au comité pour venir aussi faire le lien, pour être médiateur, pour pas laisser tout seul, encore une fois, certains sujets sans réponse. Après, les émotions en elles-mêmes, moi, à mon avis, et c'est aussi parce que je fais du théâtre, mais les émotions en elles-mêmes, il faut qu'elles sortent tout simplement. Donc on les gère pas, on n'est pas là pour ni faire un câlin, ni même si je suis pas contre, mais on est surtout là pour qu'elles sortent parce qu'elles ont besoin d'exister. Et puis on échange avec la personne. Et puis voilà, enfin les émotions elles sont nécessaires.
Et vous parliez de colère que ressentent certains membres du public. Alors quels sont les défis que vous rencontrez lors de la création et de la diffusion de spectacles traitant de sujets aussi sensibles, aussi intimes?
Il y a des réactions parfois un peu fortes à la sortie, mais pas tant que ça. Souvent, quand on joue en établissement scolaire, il y a souvent un jeune qui nous demande si ça est arrivé que ça ait choqué dans certains autres établissements. Ils sont un peu curieux de ça. Et en fait, souvent, ça n'est pas vraiment arrivé, quoi. Ça a parfois soulevé des questions fortes, mais qu'il y ait eu des gens choqués, je crois pas. Ou alors, ils ne sont pas manifestés, quoi.
Il n'y a pas eu vraiment de choc. Il y a des profs, hein, mais aussi des professeurs qui se posent beaucoup la question si c'est bien d'emmener ce spectacle auprès de la jeunesse. Alors nous, on le destine à partir de la troisième, hein, pas avant. Avant, c'est possible en tout public accompagné de leurs parents pour qu'il y ait toujours un adulte qui puisse répondre à leurs questions. Sinon, en établissement, quand ils sont en phénomène de groupe, c'est à partir de la troisième. Mais oui, les professeurs se demandent s'ils ne sont pas un peu jeunes. Et on leur dit, mais non, nous, on a interviewé cet âge-là et c'est eux qui nous ont dit qu'ils avaient besoin d'entendre ça. Et ils sont très contents. En fait, les jeunes sont beaucoup moins choqués que les adultes. Et alors, on pose un mystère à force de parler de ça, mais c'est parce qu'il y a un endroit du spectacle où on aborde le sujet du clitoris et on essaye d'expliquer un petit peu l'intérêt du clitoris. Donc voilà, on y met les vrais mots. On ne parle pas de fleurs ou de choux. Et en fait, les enfants sont bien contents qu'on leur parle vraiment des choses. Donc voilà, c'est de ça beaucoup qu'il est question, dont il est question.
Et comment votre travail théâtral aborde-t-il les différentes injonctions auxquelles les femmes sont confrontées, sont soumises dans la société? Vous, de quelle manière spécifique vous les abordez et comment vous les représentez sur scène?
Il y a plusieurs formes. En fait, elles se sont un peu abordées d'elles-mêmes du fait qu'on ait interrogé beaucoup de femmes. On avait laissé un appel ouvert. N'importe qui pouvait venir nous rencontrer pour parler de ces thématiques-là. Mais en l'occurrence, c'est plutôt les femmes qui se sont déplacées. Donc, de fait, et d'elles-mêmes, elles ont abordé les injonctions qu'elles pouvaient subir. Après, on a un texte qui est spécifiquement écrit là-dessus. Mais ouais, à part ce petit moment qui est mis en musique et tout ça, je pense que c'est abordé au fil des différents témoignages parce que ce sont des choses malheureusement encore présentes, quoi.
Et puis, on est toutes les deux soumises à des injonctions, quoi qu'il arrive. On essaie de se bagarrer contre, mais voilà, c'est comme ça. C'est un fait. Et de toute façon, cette problématique, elle est posée du moment même qu'on entre en scène, parce qu'on s'est posé la question de quel costume, comment ça va nous aller. Donc, elle est permanente, l'injonction. Donc, voilà, on ne fait que développer un tout petit peu le sujet, mais...
Et justement, selon vos observations, quels sont l'effet de ces injonctions sur la vie des femmes au quotidien?
On a eu beaucoup de retours vraiment différents, mais dans l'ensemble, bah, évidemment, le thème, le mot, c'est le complexe. Enfin, mais on a eu des retours de témoignages très forts, quoi, de gens qui s'interdisent des choses. À cause de ces injonctions, qui s'interdisent de vivre, on va dire, en gros.
Et aussi, une découverte, en quelque sorte, qu'on a faite en rencontrant beaucoup les collégiens, donc on les rencontre en classe, donc forcément en groupe mixte, c'est qu'à l'âge de l'adolescence, les garçons subissent aussi énormément d'injonctions et ont beaucoup, beaucoup de complexes. Et ça, c'était vraiment, on le dit dans le spectacle, c'est vraiment une des découvertes qu'on a faites. Et d'où l'intérêt de ne pas en être resté à nos propres a priori et d'être allé chercher des personnes différentes pour témoigner, que ce soit des jeunes, garçons, filles, des adultes, etc.
Oui, on était étonnés de voir que les garçons avaient autant de complexes que les filles, finalement. On ne s'y attendait pas.
Dans votre spectacle, vous parlez du rapport entre soi et son propre corps, vous parlez d'injonction, du mouvement MeToo. Et bien que cela persiste à rester tabou, vous parlez de sexe. Alors, quelle place vous accordez au sexe dans votre spectacle ? Pourquoi vous jugez nécessaire d'en parler aujourd'hui ?
J'ai cru que vous alliez me demander de quelle place je mettais le sexe dans ma vie.
Non.
Je ne savais pas encore comment répondre.
C'est pas été une chose évidente. Enfin, en tout cas, dès le début, je pense qu'on s'était dit que c'était important parce qu'on avait des jeunes qui nous avaient dit que ça l'était. Après, ça reste, comme tu le dis, un tabou. Donc, même pour nous, ça peut l'être à certains endroits, à certains moments. Ça dépend des jours, mais enfin... Donc, on a écrit des trucs, puis on s'est dit, est-ce que vraiment on va assumer ça sur scène ? Et puis, finalement, oui. Puis, je crois qu'on est contente de le faire. Et en fait, c'est un côté assez jouissif, c'est le cas de le dire, libérateur, de se dire, ouais, on y va, et puis on pose les mots, on dit les choses, et finalement, c'est assez marrant à faire, quoi.
À un moment dans le spectacle, on aborde donc le sujet du clitoris, on l'a dit tout à l'heure, mais on introduit en disant que voilà, il y a un mot qu'on utilise très peu, et qui est le mot vulve, et que c'est pas un gros mot. Et donc, comme on est dans une sorte de conférence-spectacle, on encourage le public à répéter à plusieurs reprises le mot vulve pour qu'ils se le mettent en bouche et qu'ils acceptent l'idée de dire, de l'utiliser. Et voilà, c'est des choses comme ça. Ils sont choqués au départ. Enfin, on sent un petit peu une respiration coupée. Et puis finalement, tout le monde s'embarque là-dedans. Donc.
Alors, on l'a vu dans ce spectacle, aborde de nombreuses thématiques de différentes manières. Il y a dans le spectacle ce que vous appelez l'hymne des femmes. Alors, pourquoi avoir tenu à illustrer vos revendications en chanson ? Est-ce que, pour vous, chanter, ça aide à la compréhension ?
C'est une chanson particulière, déjà.
Ouais. On s'est posé la question de la fin du spectacle. On avait encore plein de choses à dire, puis à un moment, il fallait faire des choix. Et cet hymne-là, on le chantait déjà dans le spectacle précédent, Simone en veille. Il nous a été transmis par des femmes du comité Manche droit des femmes. C'est donc un chant de lutte qui date des années 70. Et c'était pour nous une façon de s'inscrire dans cette filiation-là, en fait, de chanter cet hymne. Et puis, quand on avait cette difficulté face à la fin du spectacle, finalement, on s'est aperçu que ça créait quelque chose de fort, de chanter, effectivement, comme tu dis, puis de chanter un chant de lutte, un chant qui porte toute une histoire. Et voilà, je pense que c'est comme ça.
Ce qui est drôle, c'est que dans les établissements scolaires, ils ne connaissent pas forcément l'histoire de cette chanson. Donc, des fois, ils nous demandent comment on en est venu à l'écrire. Et ils sont... épaté, comme si c'était très moderne. J'exagère un peu, j'extrapole, mais ils sont surpris et contents. Donc je me dis que c'est pas une chanson d'un autre temps, quoi. Donc moi, je trouve que ça, c'est plutôt chouette. On chante cette chanson pour tout ce que Camille vient de souligner, mais c'est aussi que, on a créé un spectacle qui s'appelle Simone en veille. On crée Corpus Féminin. Donc on crée un binôme, un duo, Camille et moi, où nos personnages s'appellent Simone et Simone, on est toutes les deux des Simone, et est en train de se dessiner notre signature aussi, c'est notre façon. On a terminé le premier spectacle avec cette chanson, on avait envie de terminer le deuxième avec cette chanson, pour se dire que la lutte continue toujours, et si on fait un troisième spectacle ou un quinzième spectacle, on finira toujours avec cette chanson. Et le petit défi pour l'instant, c'est d'essayer de la chanter à chaque fois différemment. Donc on l'a chantée en version un peu rock'n'roll la dernière fois, là on est revenu à quelque chose de plus classique mais rapide.
On a demandé à un chœur de femmes de la région, les Marie-Jeanne, de faire un enregistrement de cette chanson. Donc, c'est plein de voix de femmes. Donc, voilà, ça lui redonne aussi une autre dimension par rapport, effectivement, quand on avait la guitare électrique. Et voilà, c'est encore une autre façon de l'aborder.
Mais pourquoi ce choix de vouloir justement chanter la chanson de manière différente à chaque fois ?
On s'ennuie, sinon, au bout d'un moment. C'est une façon de se renouveler.
Et puis, je pense qu'on n'est pas au même endroit de création 5 ans après, avec un deuxième spectacle. Et du coup, on n'a pas forcément envie... Enfin, oui, c'est ça, on n'a pas envie de faire exactement la même chose. Je ne sais pas si on s'est beaucoup plus posé la question que ça, mais...
Le spectacle, il se revendique comme étant un spectacle documentaire. En quoi le théâtre documentaire est-il particulièrement adapté pour mettre en lumière et déconstruire les injonctions ? Et qu'est-ce que c'est le théâtre documentaire, finalement ?
Et ben, voilà, c'est ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'on a écrit le spectacle à partir d'interviews. Donc en fait, on a réuni tout un corpus d'interviews. Et nous, nous n'avons fait qu'un travail de journaliste finalement et d'autrice. Évidemment qu'on est autrice et on a, nous, dans la mesure où on a sélectionné et réécrit les choses en fonction d'un spectacle, on a gardé notre œil artistique pour y mettre un rythme, pour y mettre, pour y poser des choses ludiques, parce que si on se met à pleurer ça, tout le temps, ça va pas marcher. Si on rigole tout le temps, ça va pas marcher. Donc nous, on y pose aussi un rythme d'humeur, d'émotion, pour que toutes les informations puissent être reçues. Ça, c'est notre savoir-faire d'artiste. Mais on a décidé de l'appeler aussi documentaire parce que la sève du spectacle est à partir de documents, des témoignages en fait. C'est des gens de la vraie vie, quoi. On n'a pas été dans du fictionnel, très très peu, enfin à peine. Je regarde Camille en demandant ça, mais il y a pas de fictionnel.
Au-delà des témoignages, on a aussi énormément, on s'est documenté, quoi. Enfin voilà, on a cherché à voir quand on donne des faits ou des chiffres ou un historique de quelque chose, on avait envie d'être précise. Donc il y a cette dimension là.
Camille est très à cheval sur ces choses-là. Donc, dans le texte, on a des annexes énormes à la fin avec
toutes les références sur lesquelles
site,
on s'est basé.
Sur le site de la compagnie, il y a toute une page avec les références bibliographiques de tout ce sur quoi on a été chercher des choses.
Et donc, vous l'avez dit à plusieurs reprises, dans le corpus féminin, les mots qui sont employés sont plutôt crus. Est-ce que donc, c'est volontaire pour choquer le public? Est-ce que vous avez le sentiment que choquer, ça va permettre de comprendre davantage?
Moi, je n'ai pas du tout le sentiment de choquer.
Non, je crois qu'on a... En tout cas, on n'avait pas la volonté de choquer. Donc, peut-être ça arrive par accident de temps en temps. On avait envie de dire les choses de manière...
Elles sont crues parce qu'elles sont réelles, en fait. Hein. On dit crues parce qu'on a une tendance à... Quand on fait un spectacle, enfin, je dis « on » de façon générale, et on a une tendance aussi à enjoliver les choses et à mettre un joli papier bonbon, mais nous, on avait envie de ne pas mettre le papier bonbon et de manger le bonbon tout court. Voilà, mais ce n'est pas plus cru que ça, si ce n'est qu'on est dans la réalité, je crois.
Et puis, il y a vraiment un passage voilà, où on parle clairement de sexualité en posant les mots. Ce n'est pas forcément non plus représentatif de l'ensemble du spectacle. Tous les gens qu'on a rencontrés ne sont pas forcément venus nous parler de sexe. Donc, bon, il y a aussi d'autres thématiques liées au corps, le rapport à la beauté, l'image de soi... les violences, les rendez-vous chez le gynéco, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Mais c'est vrai que même les rendez-vous chez le gynéco, ça peut être assez cru, ceci dit, mais...
Ouais. Et vous vous référez à une citation de Simone de Beauvoir, « Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ». Alors, est-ce que pour vous, ce spectacle que vous organisez peut servir de certaines mises en garde contre ce risque ?
Bah, en tout cas, c'est déjà une façon de poser une veille, quoi. Oui, c'est... le danger est toujours là. Alors là, il y a quand même une bonne nouvelle dans la mesure où l'IVG est rentré dans la Constitution. Mais oui, moi, quand je vois qu'un président aux États-Unis, enfin un futur président, va peut-être débarquer et qu'il est inquiétant, moi, tout ça m'inquiète, en fait. Donc, oui, il faut être vigilant tout le temps et ne pas se rester comme ça tranquillement en se disant bah, nos ancêtres se sont battus, on est tranquille. En fait, il y a une bataille pour tout le temps. Enfin, il y a des milliers de batailles à mener, toujours. Il ne faut pas rester tranquille devant sa télé, sinon on pleure.
Et en quoi, pour vous, la représentation des corps féminins sur scène dans votre spectacle, ça contribue à remettre en question les normes sociétales et à favoriser l'inclusion des femmes dans le milieu artistique?
Elles le sont de plus en plus et de mieux en mieux, je dirais, mais c'est peut-être jamais assez. Moi, mon problème actuellement, c'est que là, ça fait 20 ans que je fais ce métier, et on me fait comprendre que je réussis actuellement parce qu'il fallait bien laisser un peu plus la place aux femmes. Donc, on va de toute façon nous frustrer, quoi qu'il arrive, même quand... parce qu'il y a des quotas, et dans le monde artistique aussi, il y a des quotas. Donc, étant une femme artiste, je rentre dans un quota. Donc c'est très énervant, parce qu'en fait la frustration est partout. Les hommes sont frustrés et les femmes vont être frustrées de réussir. Donc j'en suis là, mais malgré tout, je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus de femmes qui représentées dans le monde artistique, qu'elles ne soient plus des muses, parce qu'en fait elles ne l'étaient pas. Elles étaient créatrices avec en équipe, mais on les a appelées des muses. Je sais pas, Camille, est-ce que tu peux en dire de plus, mais.
Pas grand chose, c'était super bien, Isabelle.
Merci.
Non, mais juste peut-être d'ajouter que, oui, en fait, le fait qu'on y soit et qu'on la prenne, cette place, comme tu dis, on l'a prise, la place, on n'a pas attendu qu'on vienne nous dérouler le tapis. Donc, peut-être c'est une petite pierre, mais une petite pierre à l'édifice quand même, ouais.
Et comment vous envisagez l'évolution future de la compagnie d'Odeka? Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres spectacles que vous voulez organiser toutes les deux, par exemple?
Vas-y.
L'avenir de la compagnie d'Odeka, il est au-delà de la collaboration d'Isabelle et moi. Et Isabelle pourra en parler mieux que moi. Est-ce qu'on envisage de continuer toutes les deux? Je crois que pour l'instant, oui. Ça fait un an qu'on le tourne, ce spectacle, Corpus Féminin. Donc, il est tout jeune. Et pour l'instant, on savoure le plaisir de ces années à bosser dessus et de l'aboutissement qui est de le jouer. Mais probablement, dans quelques années, on se reposera la question de « Bon, alors, c'est quoi le prochain Simone et Simone? Qu'est-ce qu'elles ont encore à raconter ?»
Et la compagnie existe au-delà de Corpus, bien sûr. On a une dynamique de création. Le fait d'être en résidence, on a déjà une dynamique de médiation et de rencontre avec le public en permanence tout au long de l'année. Mais pendant que Corpus Féminin tourne, on a aussi un projet de création qui s'appelle Mesure pour Mesure de William Shakespeare, dont la première va avoir lieu en novembre au Théâtre Municipal de Coutances. Donc voilà, il y a plusieurs créateurs au sein de la compagnie. Et celui-là, ce sera un projet de Vincent Poirier.
Enfin, si on veut en savoir plus sur la compagnie d'Odeka ou assister au spectacle, comment on peut faire? Où est-ce qu'on peut se rendre?
Alors, venez sur le site de la compagnie d'Odeka, cie-dodeka.fr, CIE comme compagnie en réduit. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur ce site et comme ça vous recevrez quelques informations à chaque fois qu'on a une actualité. Vous ne serez pas bombardé, vous aurez juste les infos nécessaires pour savoir ce qu'on fait, où, quand, comment. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Quentin et Camille Regnault d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions.
Merci.
Moi maintenant, je vais laisser la parole à Lucie.